France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Encore un bel éventail d'initiatives pour conclure cette semaine. Tout d'abord, dans notre département de Seine-Maritime, nous avons retenu le projet partagé par les habitants de Saint-Jouin-Bruneval. Nous sommes à deux pas du Havre, de redynamiser leur centre-bourg. Ainsi est né un lieu et en même temps un concept qui nous plaît bien, la halle à tout faire. Et puis une lecture intéressante et utile, le dossier du magazine Sans Transition, édition de novembre-décembre, qui s'emploie à analyser nos comportements dans un climat, c'est le cas de le dire, très anxieux. Au lendemain de la COP26. Nous appellerons Guillaume Bernard, auteur d'un article sur les orientations vertes des industries françaises entre greenwashing et volonté de bien faire.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Virginie Walbrou, bonjour.
Bonjour.
Madame l'adjointe, vous êtes première ou deuxième adjointe ?
Oh, je suis même plus loin que ça. Je ne sais même pas combien, peut-être avec la parité quatrième, quelque chose comme
ça. Ah oui, à Saint-Jouin-Bruneval, on respecte cette parité.
Ouais.
Alors, mairie sans étiquette, je le dis pour le CSA,
oui. Tout à fait.
Qui note les points ou les mauvais points. Ce qui nous intéresse chez vous, dans cette belle petite commune de 1800 mm-hmm. habitants, on n'est pas loin du Havre, et le risque, c'est que des communes comme vous soient désertifiées, en tout cas, perdent les commerces, la vie... du centre-bourg, parce que qu'est-ce qu'on fait ? On va faire ses achats ou on va dans une salle de cinéma au Havre ?
Voilà, alors il y a des belles salles de cinéma au Havre, je les défends parce qu'il y en a des chouettes, donc continuez à aller au cinéma au Havre. Mais c'est vrai qu'il y a les villes, il y a la campagne, et la campagne est grande et étendue et attire du monde malgré tout. Donc l'idée, c'est pas d'être une campagne où l'on dort et puis des villes où on fait des choses. Il y a voilà, donc on voulait nous à Saint-Jouin favoriser voilà la vie et c'est une commune où on vit beaucoup ensemble et dehors, où il se passe pas mal de choses.
Mais il y a eu des débats autour de la halle à tout faire.
Alors, il y a eu des rencontres sur le vilain mot, parce que c'était pas l'idée qu'on avait en tête sur les tiers-lieux. On a discuté un petit peu avec les personnes qui étaient intéressées, intéressées par le sujet, pour savoir un petit peu de quoi ces personnes-là avaient envie dans le village, qu'est-ce qu'elles avaient envie de vivre ensemble, de partager. Donc il y a eu effectivement des débats, on va dire, mais plutôt sur l'idée de lieu, pour savoir voilà qu'est-ce qu'un lieu comme qui n'existait pas encore, qui était un ancien garage, qui a été racheté, qui avait une belle structure et qui est encore de village, qu'est-ce que ça pouvait devenir pour tout le monde.
Quelle mission vous avez donnée à ce bâtiment ? Parce qu'après, il faut le partager avec les habitants.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est une mission un petit peu nouvelle, parce qu'en fait, justement, on n'a pas voulu lui affecter une mission particulière. On n'a pas voulu créer une salle de spectacle. Il y en a ailleurs, et des très chouettes. On n'a pas voulu créer une salle polyvalente. On n'a pas voulu créer une médiathèque, on en a une aussi. Alors, c'est un lieu de rencontre, et puis c'est un lieu qui est à côté du petit marché. On a un petit marché qui est très, très sympathique le samedi matin. Donc c'est un lieu ouvert. Il manquait au départ, pour par exemple une demande des commerçants du marché, c'était d'avoir peut-être un lieu couvert pour l'hiver. Bon, ça c'est un des usages de cette halle qui est vraiment exactement à côté du marché. Et c'était aussi peut-être pour pouvoir faire des expositions, alors Covid oblige, un peu moins enfermées que dans les lieux d'expo habituels. Alors c'était possible aussi parce que c'est une halle qui s'ouvre tout en grand, donc qui est à la fois couverte mais ouverte. C'était aussi pour les randonneurs qui passent, et il y en a pas mal, pouvoir éventuellement se rassembler quelque part sans devoir demander l'abri. Bon voilà, c'est possible, c'est sur la place du village, là où se rencontrent les randonneurs. Donc voilà, c'était des usages assez simples, mais qui étaient des usages qui ne méritaient pas un lieu où il fallait demander une autorisation pour venir. Je pense que c'était un petit peu l'idée.
Ouais.
Et puis pas non plus forcément un lieu institutionnel, c'est-à-dire géré par l'équipe, par la commune. Alors, ça l'est, mais malgré tout, c'est un lieu où on peut aller sans demander les clés. Il y a un boîtier, il y a un code, on y va. Si c'est fermé, on ouvre les portes avec le code. Et puis si les portes sont ouvertes, eh ben, on y va sans problème.
J'aime beaucoup ce concept de... Parce que ça, vous pourriez en faire un vrai concept de la halle à tout faire, justement.
Alors voilà, c'est son nom, la halle à tout faire. Parce que l'idée, c'était ça. C'était qu'on pouvait y faire tout ce qu'on voulait à partir du moment où c'était ouvert. Il n'y a pas de restriction et il n'y a pas de, enfin, c'est pas fléché vers un seul fonction, enfin, vers une seule fonction, quoi. Donc c'est un concept sympa. Et puis faire aussi, il y a un petit jeu de mots, c'est vrai qu'on a une halle qui est à l'intérieur avec une belle structure en fer qui est ressortie. Donc voilà, c'est aussi aussi un petit clin d'œil à la structure.
La halle a été inaugurée en octobre 2020. Est-ce vrai qu'il y a déjà un phénomène d'aspiration grâce à ce lieu de rendez-vous public, d'aspiration de nouvelles activités chez vous?
Pour l'instant, en fait, ça nous a permis, par exemple, de proposer des expositions en plein air, enfin oui, une exposition en plein air de photos qu'on a faite un peu dans tout le village et à l'intérieur de la halle. Il y a eu pas mal d'usages un peu différents, en fait. Il y a eu donc l'expo, il y a eu les mardis d'été qui étaient des petits marchés hebdomadaires de cet été, il y a eu des petits commerçants, enfin il y a un commerce aussi qui est là en permanence un petit peu sous la halle. Il y avait des groupes de musique, il y a pas mal de choses différentes.
Vous allez trouver à nos pages le lien avec le site de la commune de Saint-Jouin-de-Bruneval et bravo pour cette initiative chez vous. Merci Virginie.
Merci beaucoup et merci beaucoup pour vos émissions. J'écoute avec attention et toujours avec grand plaisir.
France Inter, carnet de campagne.
Nous restons encore une petite minute en Seine-Maritime grâce à Julien Colbeau, qui porte bien son nom. En effet, Julien conçoit des nœuds papillons uniques depuis son atelier de Rouen. Julien explique sa démarche sur la page d'accueil de son site. La vente d'accessoires de mode le tentait, mais au cours d'un voyage en Italie, il découvrit que son hôte inventait des nœuds papillons pour son usage personnel avec des chutes de cuir. De retour à Rouen, écrit-il, j'ai acheté du tissu, pris la vieille machine à coudre de ma grand-mère et j'ai réalisé mon premier nœud papillon, puis un deuxième et un autre, jusqu'à ne plus m'arrêter. Depuis cette révélation, Julien crée aussi des ceintures nœuds papillons, des éventails et des masques de nuit. Les nœuds sont fixes et non à nouer, mais le résultat est confondant et très original. Personnellement, j'aurais bien créé un slogan du genre « Les nœuds Colbeau pour un beau col », ça va peut-être être récupéré, colbeau.fr. Pour l'adresse, un détour maintenant par l'Indre-et-Loire pour mentionner la petite entreprise d'Élise. 3, 2, 1, visitez. Guide, conférencière et éducatrice à l'environnement, Élise s'est dit que les approches ludiques du patrimoine que l'on propose aux enfants pourraient aussi bien s'appliquer aux grands. Elle propose donc des visites actives du patrimoine local avec une belle pointe d'humour. Outre la découverte des mystères de la ville de Tours ou de Loche, Élise nous soumet la non-visite de Saint-Pierre-des-Corps, où l'on apprend qu'à Saint-Pierre, il n'y a rien à visiter, mais en se promenant, on peut découvrir de belles choses. Par ailleurs, elle a inventé un escape game dans le centre ancien de Tours, en se basant sur des faits historiques authentifiés. Son site, c'est 321visiter.wixsite.com. Guillaume Bernard, bonjour.
Bonjour.
Guillaume, vous êtes confrère, journaliste, vous participez à de nombreuses enquêtes pour différents magazines et en particulier vous participez au dernier numéro de Sans Transition, éco-anxiété, garder l'espoir dans la tourmente. Il y a un sujet très intéressant sur l'industrie et les reconversions vertes de l'industrie avec un point d'interrogation parce que vous en soulevez de nombreux et pour cause, vous donnez l'exemple de Total. Alors Total se tournerait vers la production d'agrocarburants et de bioplastique. Ça, c'est sa perspective d'avenir.
Alors effectivement, c'est ce que Total a prétendu et prétend mettre en œuvre, notamment à Grandpuits, qui est une des dernières raffineries françaises, qui a fermé au début de l'année 2021, mais dont l'annonce de la fermeture a été faite en 2020. Effectivement, donc on peut se réjouir a priori que des pipes, enfin voilà, qu'un pipeline qui n'a pas été réparé ferme, qu'une raffinerie, puisque c'est une industrie polluante, ferme, et on pourrait se dire dans une perspective écologiste, c'est une bonne nouvelle. Le problème, voilà, que j'ai soulevé dans mon article, et qui a été soulevé notamment par les travailleurs de Grandpuits, c'est que cet argument est en grande partie un argument de greenwashing, c'est-à-dire profiter d'arguments écologiques pour justifier une délocalisation, pas plus bénéfique pour la planète en fait que ce qu'il y avait auparavant, puisque pendant que Total enlève ce pipeline en Ile-de-France, cette raffinerie du coup délocalise, elle en ouvre une autre en Ouganda.
Oui.
Et après, on peut en avoir d'autres sur les arguments voilà, bioplastiques qui vont être produits.
Le bioplastique serait produit à partir de canne à sucre ou de betterave.
C'est ça, exactement. Et donc, Total brandit un peu des grands mots qui sont plastique, agrocarburant. Il faut savoir que c'est des solutions qui sont aussi très décriées par les associations écologistes. Lors de la lutte qui a eu lieu à Grandpuy, dizaines de jours de grève faits par les salariés, il y a eu un renfort et une alliance qui est assez rare entre, on pourrait dire, rouge et vert, entre notamment la CGT et des associations écologistes, qui a permis de faire un rapport, et un rapport dans lequel est dénoncé, sont dénoncés ces bioplastiques et ces agrocarburants, notamment parce que, et voilà, c'est souvent le problème des biocarburants, ils mettent une pression sur les cultures vivrières, parce que la canne à sucre est cultivée à l'aide de pesticides et de néonicotinoïdes, donc qu'on sait très nocifs pour les abeilles, et parce qu'en fait, les bioplastiques ne sont ni totalement recyclables ou biodégradables actuellement.
Alors, parlons des bonnes nouvelles, Guillaume, puisque vous consacrez aussi un dossier à cela, le virage écolo de l'industrie est possible, comme vous le mentionnez. Alors, c'est à partir d'une projection de l'association Negawatt sur différents scénarios, proposés depuis quelque temps, mais à l'horizon 2050 de la neutralité carbone, en disant écologie et emploi ne sont pas irréconciliables, et pour cause, si on parle de rénovation thermique, des logements, de développement des transports collectifs et l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, le scénario nous proposerait d'ici 2030 300 000 emplois nets.
Effectivement, c'est on pourrait dire la bonne nouvelle, et c'est pour ça que c'est toujours difficile de répondre à des arguments, aux arguments de Total, disant lorsqu'il se prétend écologiste, en disant qu'on peut faire de l'emploi et de l'écologie, parce que c'est en partie vrai en réalité. Et c'est là qu'il faut rentrer dans la finesse de l'argumentaire et s'appuyer sur les argumentaires, vérifier s'ils sont vrais toujours aussi, d'association. Il y a une transition écologique qui est possible tout en conservant de l'emploi, mais il faut se demander quoi faire et il faut se demander surtout à qui confier les rênes de cette transition. Donc je l'ai dit à des analyses précises et scientifiques telles que sont celles du rapport Negawatt, mais à des acteurs également précis. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'actuellement, les acteurs qui sont aux manettes pour la transition écologique, c'est en partie l'État, mais aussi les entreprises, dont on a pu voir qu'elles peuvent tricher. Mais pourtant, à l'inverse, il y a des solutions. Donc le triptyque que propose Negawatt, hein, c'est pas le bioplastique et l'agrocarburant, c'est la rénovation thermique, le transport collectif, et les énergies renouvelables. Ces propositions, elles sont amplifiées par d'autres propositions comme celle du collectif Plus Jamais Ça, donc qui est un collectif qui s'est en partie nourri de la lutte de Grandpuy qu'on a pu évoquer auparavant, puisque c'est un collectif qui rassemble et syndicats et organisations écologistes. Donc parmi les syndicats, il y a la CGT, Solidaire, la FSU, hein, les syndicats qu'on dit de transformation sociale. Et parmi les associations écologiques et écologistes, il y en a beaucoup, notamment Alternativa, il y a Greenpeace, les Amis de la Terre, voilà, pour le noyau dur. Et ce qu'ils nous disent, c'est laissons aux employés, aux salariés, la place qu'ils méritent dans la transition écologique. Ils ont des choses à dire. Et donc voilà, c'est ce message fort qui a été envoyé au moment de la crise de Grandpuy notamment.
Mmh. C'est à retrouver donc dans la dernière édition du magazine Sans Transition, sanstransitionmagazine.info pour l'adresse, avec entre autres ces articles bien intéressants signés Guillaume Bernard. Merci Guillaume.
Je vous remercie.
Dernier petit rendez-vous dimanche avec le collectif solidaire de Vitry-sur-Seine qui était passé dans les carnets, constitué lors du premier confinement, qui s'est donné pour fonction d'apporter une aide alimentaire aux plus démunis. Il continue à chercher un local qu'il n'a toujours pas trouvé pour stocker les denrées, préparer les paniers. Il y a une adresse électronique si vous voulez entrer en relation avec le collectif à nos pages. Afin de poursuivre ses actions de solidarité, le collectif organise un brunch solidaire, ouvre une friperie éphémère et opère une collecte de jouets dimanche après-demain de 12h30 à 21h au bar La Pétanque, rue Charles Fourier à Vitry. Merci à Stéphanie Valois qui apportait du contenu encore cette semaine au carnet. Merci aux techniciens et techniciennes de France Inter et en particulier aujourd'hui Gilles Gaillard. Les carnets reviennent lundi.